Alors, la première question qu'on avait, c'était quel organisme ou personne ressource face au harcèlement en ligne on pouvait contacter?
Bah, du coup, je crois qu'on l'a déjà cité, mais il y a le 3018, il y a e-enfance, je pense aussi à la CNIL. Voilà, un peu ce que j'ai en tête. Je ne sais pas si mes collègues veulent me compléter.
Oui, alors, je vais arriver. moi, je vais compléter aussi avec les forces de l'ordre, du coup, pour les situations, bien évidemment, où il n'y a pas la possibilité de résoudre le problème avec l'établissement scolaire. Mais avant de parler de la police, je vais peut-être rappeler le rôle et la présence des référents académiques anti-harcèlement. Alors, ce sont des personnes qui sont disponibles, que ce soit par téléphone, par mail ou rendez-vous physique. Donc moi, c'est souvent ce que je conseille, préconise aux parents, aux familles, c'est de commencer par se tourner vers leurs référents académiques avant de basculer après vers un petit peu plus gros, entre guillemets, avec la police, la gendarmerie en cas de besoin. Mais en termes de prévention, tout ce qui va être effectivement numéro vert, quoi. Après, on peut peut-être aussi inclure les hôpitaux, les secteurs médico-sociaux, CMP, maisons des ados. Et puis, n'oublions pas les psys libéraux quand le libéral est possible pour les familles, bien sûr.
Ok, merci. On avait une autre question, c'était quelle est la responsabilité des plateformes en ligne?
Je ne sais pas si je peux y aller. Ouais. Alors, c'est très flou. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que je me suis renseignée, donc c'était fin 2022 avec justement la préparation un petit peu du séminaire. Aujourd'hui, on considère que les personnes qui font ce qu'elles font en ligne sont responsables d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe, je pense à Facebook, avec tout ce qui va derrière, hein, Instagram, TikTok, Snapchat, pour ne citer que, partent du principe qu'eux, ce ne sont que des sites hébergeurs. Après, eux mettent à disposition des fonctions de signalement, du bouton à cliquer ou des fiches contact. Mais aux yeux de la loi, en tout cas en France pour l'instant, il n'y a pas encore de responsabilité civile / pénale en cas de pépin, quoi. Mais avec maintenant l'inscription du harcèlement, cyberharcèlement comme étant un délit depuis 2022, le ministère de la Justice et de la Santé tendent à réfléchir aussi à ce niveau-là, quoi.
Et sans parler de responsabilisation, mais je pense que e-enfance, en tout cas, ils ont des liens très forts aussi avec les plateformes qui permettent de faire retirer sous 24 heures, en tout cas, des contenus pour les personnes qui sont victimes, qui auraient besoin de retirer ces contenus. Mais en effet, ça ne vient pas poser la question de la responsabilisation.
Je pose des questions, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le chat, je ne sais pas s'il y a des questions. Une question.
Jamais le micro.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait plus de cyberharcèlement au Japon. Vous avez parlé du Japon comme exemple d'un endroit où il y aurait beaucoup ce type de phénomène, et en expliquant que c'était par rapport à la pression générale qui était mise sur les élèves. Et du coup, ça sous-entend qu'il y a un climat global scolaire, et j'entends pas seulement au niveau de la prévention, parce que c'est pas une question de prévention, mais plutôt un climat même gouvernemental, enfin voilà, des choix comme par exemple les nouvelles réformes pour le bac qui mettent beaucoup de pression sur les élèves. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui sont en faveur du développement de harcèlement? Enfin voilà, c'est un peu ma question, réflexion.
Je ne m'avancerai pas à critiquer ou à évaluer ce qui est mis en place actuellement. En tout cas, ce que montraient les études, en effet, c'était que plus il y avait pression mise aux élèves, plus il y avait un risque accru de développer le harcèlement. En fait, au même titre que je pense qu'on peut réduire le harcèlement en travaillant sur le vivre ensemble, quand on est dans un esprit de compétition, on n'est pas dans un esprit d'entraide. Et voilà, c'est plutôt, du coup, c'est pas une réponse forcément très précise, mais c'est les éléments que je peux le donner.
Alors moi, je vais rajouter, pour les pays qui sont le plus touchés, Je pense tout de suite... Alors, le Japon était ressorti dans le top 5, il me semble, dans le top 5. Mais j'ai tout de suite pensé, moi, aux États-Unis. Moi, j'ai des patients qui sont américains et qui me renvoient que, en fait, là-bas, c'est la norme d'harceler. C'est la loi du plus fort. Ce qui fait que ça va aussi beaucoup être directement lié à la fois au système politique, mais aux normes et aux valeurs associées à l'établissement, mais à chaque classe. Et là, je pense parfois, si je nous ramène en France, l'ambiance, le climat de classe spécifique qu'un professeur principal dans le secondaire ou dans le primaire, qu'un enseignant va mettre au sein de sa salle de classe. Donc je dirais qu'il y a plusieurs strates, à la fois au niveau de l'individu, de l'enseignement, du climat de classe, du climat de l'établissement, et après, commune, département, région. Parce que moi, j'ai fait toutes mes études à Lille et je suis en Normandie depuis quelques gros mois, ça va faire 2 ans maintenant. Il y a beaucoup plus de phénomènes de cyberharcèlement et d'harcèlement là-haut qu'ici. Ça explose à Lille. On est débordé, on ne peut plus. On ne peut plus. Et c'est contextuel aussi avec voilà, l'histoire de la région. On est proche de la Belgique, il y a des entrées-sorties. C'est une autre politique, une autre mentalité là-haut, vraiment. Moi, je vois la différence, en tout cas, depuis que je suis ici.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour. Du coup, nous, on se posait un peu la question contre-pied sur les pratiques du ghosting. Est-ce que, du coup, le ghosting rentre comme une forme indirecte de harcèlement ou c'est vraiment quelque chose de différent avec des conséquences différentes, etc.
Je ne sais pas si ma collègue Pascale Desrumaux voudrait répondre par rapport à ces classifications, avant peut-être de donner mon regard là-dessus.
Du ghosting, donc, au sens où c'est le supérieur hiérarchique qui a des agissements harcelants, c'est bien ça, je demande pour vérifier, hein, avant de répondre.
Non, pas spécialement, plus une pratique de...
En fait, justement... J'entends très mal, excusez-moi.
Pardon. Une pratique de stopper... la relation ou justement la discussion de manière assez brutale. Et justement, pour rebondir sur ce que M. Grégory disait, avec parfois la présence d'un trauma qui peut s'immiscer, quoi. C'est peut-être pas clair.
Pour moi, c'est un agissement qui fait partie d'un ensemble, d'un arsenal, on va dire. Hein. La coupure de la relation, personnellement, c'est pour moi une maladie de la relation. Je ne veux pas victimiser davantage, mais il y a une responsabilité du côté harceleur, il y a aussi quelque chose du côté de la victime. Couper brutalement la communication, ça fait partie des agissements. Faire comme si la personne n'existait pas, c'est aussi une rupture brutale. Ça fait partie d'un ensemble d'agissements, d'un ensemble de choses qu'il peut mettre en place. Du côté de la victime, ne pas réagir rapidement, ne pas montrer sa surprise, ne pas pointer ce dysfonctionnement, c'est déjà ouvrir la porte au processus de harcèlement. Parce que si elle ne fait rien dès le départ, ça va encourager, ça va se poursuivre. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Oui, ça, pardon, c'est vrai que vous ne voyez pas trop, mais oui, merci.
Moi, ce que je rajouterais, si je peux, c'est que moi, je vais l'analyser, l'évaluer comme étant du cyberharcèlement à partir du moment où c'est la même personne qui va ghoster, revenir. Parce que là, on rentre dans un processus de violence psychologique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut basculer aussi, et là, je pensais à une situation, dans l'emprise psychologique. Je refais le point avec les compétences psychosociales, où en fait, l'estime de soi va être abîmée parce que l'auteur de cyberharcèlement, de ghosting à ce moment-là, va dire « mais c'est de ta faute, c'est ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu n'es pas, qui fait que ciao, bye, bye ». Et le ghosting, de façon isolée, moi je considère que ça va être une violence un peu plus psychologique, émotionnelle, Mais quand ça se réitère de la même personne pour la même victime, là, on peut commencer effectivement à le mettre sous un format cyberharcèlement. Mais je ne suis pas persuadée qu'au niveau de la littérature aujourd'hui, qu'il y ait ce niveau d'analyse-là. Pas encore, du moins. Ça fait une idée de recherche.
Merci.
Après, ça fait un peu penser au jeu du chat et de la souris, quoi. On glisse sur le champ de la perversion. Hein. Bon, après, chez les jeunes, je ne suis pas sûre qu'on puisse poser des diagnostics de perversion, mais dans le monde du travail, cette tendance à lâcher, revenir, couper, revenir, c'est typique de processus de clivage, de retour, de coupure avec les émotions. Donc ça fait partie du tableau clinique de la perversion. Enfin, il y en a plusieurs formes. Après, il y a peut-être des cliniciens qui vont dans la salle qui peuvent davantage en parler. Mais il est clair que parmi les situations de harcèlement, on va avoir aussi des harcèlements pathologiques. Ce ne sont pas les plus courants, parce que les problématiques, que ce soit chez les jeunes ou au travail, ce sont d'abord des problématiques de relations, de normes, d'apprentissage de valeurs, de respect, etc. Beaucoup de maladresses relationnelles qui sont accentuées par le cyber. Lorsqu'on examine justement le type de harcèlement, la conduite à tenir n'est pas du tout la même face à une personne qui aurait un profil de type pervers et face à une personne qui a un profil de type personne maladroite sur le plan relationnel. C'est pas les mêmes consignes, c'est pas les mêmes. Voilà, si on a affaire à une personne qui joue, qui est dans un jeu, qui est dans les injonctions, ça va être protection, quoi. C'est pas la peine de penser qu'en parlant à cette personne, on va la changer. Non. C'est un problème, problématique personnelle et pathologique. Voilà, je vais refermer parce que c'est pas mon choix.
Juste pour compléter sur la question du ghosting, je trouve que la notion de répétition, en tout cas dans le harcèlement, elle est en effet essentielle. Ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière, parce que le ghosting, c'est aussi beaucoup utilisé pour des personnes qui sont dans la fuite relationnelle et qui sont incapables de responsabilisation, et donc pas forcément sur le champ pervers. Enfin voilà, je pense que ça dépend si en effet on revient, s'il y a des allers-retours, ou si à un moment c'est juste fuir quelque chose. Voilà.
Alors, on avait quelques questions dans le chat. Je te laisse parce que
c'est... Est-ce que le télétravail pourrait augmenter le cyberharcèlement ?
Oui, de fait, puisque plus on est à distance, plus on utilise les nouvelles technologies, que ce soit les mails, le téléphone, et plus... On est exposé. Après, au niveau des pourcentages, sont beaucoup plus faibles que les pourcentages de harcèlement. Dans les enquêtes européennes, si on prend les 13 enquêtes européennes, la moyenne de personnes harcelées, c'est entre 8 et 12 % dans une organisation. Alors, pas les organisations industrielles, mais tout ce qui est éducation sociale, distrib, etc. C'est quand même des pourcentages assez importants parce que une personne sur 10. Au niveau du cyberharcèlement, en tout cas dans le travail, on n'a pas ces chiffres-là. Mais comme je disais, les deux sont liés. Les deux sont liés, et surtout dans le travail, forcément.
J'ai une petite question un peu d'ordre sociologique et un peu provocatrice aussi. À admettre, qui fait suite à un débat qu'on a eu pendant la pause café. On a un peu associé avec les mouvements de call-out, le mouvement MeToo, et on voulait aussi vous soumettre à cette question-là. Comment est-ce qu'on pense, comment on explique que le terme d'harcèlement ne paraisse pas approprié ou adapté pour des situations pourtant qui décrivent un peu tout ce que vous avez pu exposer les unes aux autres?
Donc ça, c'est une question juridique.
Bon, on est psycho, on n'est pas juriste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement le harcèlement d'un côté pour nous au niveau des concepts et de l'autre la discrimination. Et qu'à un moment donné, si la discrimination est utilisée pour harceler, on va qualifier ça juridiquement de harcèlement discriminatoire. Et que donc, forcément, on peut s'appuyer à la fois sur le dispositif législatif du harcèlement, mais aussi sur celui qui a trait à la discrimination. Donc pour celui qui s'amuse à ça, entre guillemets, ça peut être très compliqué au niveau juridique, parce que ça va relever de plus de textes encore. Pour le harcèlement sexuel aussi, il y a à la fois le dispositif pour le harcèlement sexuel et le dispositif pour le harcèlement moral. Donc quand les lois sur le harcèlement moral n'existaient pas, on s'appuyait sur la discrimination et on s'appuyait sur les lois sur le harcèlement sexuel. Maintenant, il y a une loi sur le harcèlement moral, mais pour la discrimination, effectivement, on va qualifier ça quand c'est répétitif et quand ça prend la forme d'un harcèlement, on appelle ça le harcèlement discriminatoire.
Pour compléter, les premières études d'Anne Olveus qui a été présentée par M. Michel tout à l'heure, qui est vraiment le pionnier. C'est le premier, donc il est PU en psychologie sociale norvégien, c'est le premier qui a posé le mot harcèlement scolaire, donc bullying. Et en fait, ses travaux de 93 étaient basés que sur des formes de discrimination pour commencer à parler de harcèlement. Donc c'était discrimination par rapport au genre, donc à l'époque, sexe. Sur la couleur de peau, sur l'ethnie, sur le handicap aussi, handicap physique, handicap mental. Et en fait, je rejoins Madame Desrumaux là-dessus, c'est que on peut pas en fait parler de l'un sans parler de l'autre, parce que le harcèlement a été pointé du doigt comme étant problématique. Enfin, du moins, le mot harcèlement est arrivé quand on a pointé du doigt que certaines catégories sociales, appelées comme ça à l'époque, était beaucoup plus enclin à subir de certaines formes de violence qui se répétaient dans le temps avec un déséquilibre de force et de pouvoir. Parce que les trois piliers du harcèlement, ce qui a été très bien présenté par tout le monde aujourd'hui, répétitivité dans le temps, intentionnalité de nuire à autrui, ce qui est questionné en fait au niveau du cyberharcèlement quand justement il y a ce côté ben, en fait, je ne savais pas ce que je faisais, je suivais le rôle des témoins, et le déséquilibre de force et de pouvoir. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de pouvoir de force, on n'est pas seulement sur la force physique, on est avant tout sur de la force psychologique mentale. Donc c'était les personnes à l'époque qui étaient un petit peu plus vulnérables de par justement voilà, leurs difficultés. Je pense à des jeunes qui malheureusement ben, souffrent d'un handicap mental, d'un handicap physique ou les deux d'ailleurs, qui étaient un peu plus à ce moment-là pointés du doigt et malmenés par leurs camarades de classe. Donc c'est vraiment parti de là. En fait, si on regarde au niveau de la littérature, c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable de toujours regarder ce qui se passe au niveau scientifique avant de prendre en charge sur le terrain pour comprendre comment ça s'est mis en place et d'où ça part. Aujourd'hui, c'est pas que les travaux d'Olveus sont devenus obsolètes, c'est qu'il n'y a plus de profil type, en fait. Vous voyez, je communiquais là-dessus la semaine dernière où à un moment, quelqu'un me posait la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on est harcelé ou cyberharcelé ? Mais je leur dis, il y a une époque, effectivement, dans les années 2000, on pouvait dire parce qu'il porte des lunettes, parce qu'il est roux, parce qu'il est gros, parce que ceci, cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de tête qui fait que vous êtes cyberharcelé ou harcelé. Et encore plus quand vous êtes cyberharcelé. J'espère qu'on a répondu à votre question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, et c'est vrai qu'on est tous susceptibles d'être harcelés. Donc, il faut faire attention à une littérature qui psychologise trop en cherchant des raisons. Il faut tout de suite penser à la théorie du monde juste, l'attention. Ce sont des processus psychiques à bien identifier. Et puis, on est tous susceptibles à un moment donné d'être harceleurs. Donc, on n'a pas toujours conscience. C'est important d'essayer de réfléchir à son relationnel. On peut aussi, dans la façon de rédiger les mails, parfois être maladroit. Voilà, il y a tout un apprentissage. Et le bien faire s'apprend aussi hein, au niveau des collèges, au niveau des lycées, des universités et aussi au niveau du monde du travail. Donc ça fait partie de tout ce qui est citoyenneté. C'est un concept aussi, la citoyenneté organisationnelle.
et voilà, des mails qui, dans lesquels il n'y a pas d'adresse, on va dire, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de formule de remerciement répétée, qui sont émis par vous et moi, sans, voilà, enfin, moi j'évite, mais bon, ça peut arriver si j'ai peu de temps, peuvent être perçus, s'ils sont répétés, comme un bon respect, puis du harcèlement. Donc on est tous susceptibles voilà, d'être harceleurs ou harcelés, et bien sûr encore plus susceptibles d'être bystander. Et si on regarde 1000 grammes, 75% d'entre nous ne feront rien. Souvenez-vous de la soumission à l'autorité de 1000 grammes. 75% d'entre nous regarderont et ne feront rien. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Même si on est dans un monde des super-héros, il ne faut pas oublier que dans les processus humains, il y a aussi ça.
Merci hein, pour vos interventions et réponses à vos questions. Je voudrais rebondir sur ce point justement de la définition. Ça semble assez clair ce qu'est le harcèlement, mais concrètement, notamment chez un adolescent qui est en construction identitaire, qui n'a pas forcément encore et qui est en train de développer des capacités prosociales, qui n'a pas forcément encore tout le bagage cognitif nécessaire pour comprendre l'enjeu et la portée de ses paroles. Moi, ça me pose vraiment la question de ce qu'on entend et comment on peut clairement identifier ce qu'est le harcèlement, finalement, hein, parce que des jeunes qui disent j'ai pas voulu, ben oui, je pense que ça peut être une réponse extrêmement sincère au regard de sa capacité à comprendre la situation. Donc, j'entends bien que, de fait, la prise en charge, les éventuelles sanctions peuvent être différentes. Mais je voulais rebondir sur un autre phénomène également qui peut se passer. C'est quand, à tort, et parce que aussi c'est de plus en plus vulgarisé, qu'il y a beaucoup plus de connaissances sur le sujet, que des jeunes peuvent se retrouver dans une situation où on les considère comme harceleurs et que finalement, c'est eux-mêmes qui deviennent harcelés par l'ensemble d'une classe, par l'ensemble d'un collège, d'une situation. Enfin, voilà, je pense qu'il faut. C'est pas si simple. Voilà, je voulais alerter et puis avoir votre ressenti et vos connaissances sur ce type de phénomène hein, où on peut voir chez des personnes soi-disant harcelées ben, développer des réactions, troubles du sommeil, parce qu'elles se trouvent prises autour de quelque chose qui en fait les dépasse. Et voilà.
Je ne sais pas si je peux commencer. Alors, plusieurs questions dans une question, moi, je trouve très, très adaptée. La première, par rapport à cette notion de définition, je vais me baser sur l'une des études qui avait commencé ma thèse. J'avais fait une étude qualitative pour demander aux jeunes de définir ce qu'était le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement pour eux. Parce que moi, j'ai vraiment essayé, en fait, de comprendre déjà moi et d'expliquer c'est quoi le harcèlement scolaire que moi, je qualifie traditionnel au sein des établissements. Et c'est quoi le cyberharcèlement? Est-ce qu'en fait, le cyberharcèlement, ce n'est qu'une extension du harcèlement scolaire traditionnel, c'est-à-dire que ce n'est qu'une forme de harcèlement classique, ou est-ce qu'en fait, le cyberharcèlement est un phénomène à part entière? Et mes résultats, même encore aujourd'hui, moi, c'est plutôt le parti pris que j'ai. C'est-à-dire qu'OK, on part du harcèlement avec cette répétitivité dans le temps, cette différence de force et de pouvoir, mais quand on commence à parler de l'intentionnalité dans le cadre du cyberharcèlement, là, on n'est plus d'accord. Du coup, les trois critères ne sont pas validés. Et quand on interroge les jeunes sur « pour toi, c'est quoi le cyberharcèlement ?», il n'y a que 15-20% d'entre eux qui parlent d'agressivité. Parce qu'ils n'ont même pas cette notion, cette conscience qu'on est agressif à ce moment-là, en fait. Et quand on étudie un petit peu les profils, sans psychologiser à outrance, hein, qu'est-ce qui fait qu'un élève devient auteur de cyberharcèlement ? Le pourcentage d'élèves qui présentent, et là je suis précautionneuse, hein, je ne suis pas en train de dire que les jeunes sont psychopathiques ou narcissiques, parce que mon chef de service nous regarde peut-être, donc il pourrait bondir sur sa chaise. Attention, je parle de traits caractéristiques en lien avec la psychopathie, le narcissisme, l'égocentrique. Impulsivité, manque de contrôle de soi, de self-control, et surtout un manque cruel, voire une absence d'empathie. Ici, ça va plutôt représenter 20% des jeunes qui sont, à un moment donné, cyberharceleurs et qui vont durer dans le temps. Et ici, effectivement, mis à part, entre guillemets, la sanction, ça ne peut pas percuter si ça passe que par la prévention ou de l'écoute ou de l'explication, parce qu'en fait, il y a des traits personnels, des traits de personnalité qui commencent un petit peu à se construire, qui nécessitent une réelle prise en charge. Moi, je suis plutôt fervente en tant que TCCiste des récompenses que des punitions, mais par moment, il faut quand même l'avoir en tête. Si on ne met pas un stop à ces jeunes, il n'y a rien qui peut les arrêter. Par contre, pour le reste, alors on va dire 70% pour pas non plus être dans le clivage de 80%, ici, ce sont des jeunes qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. Et dans les ressources que je vous ai proposées dans le PowerPoint, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue passer, si ce n'est pas le cas, vraiment, regardez-la. C'est Hugo Décrypte, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui en fait a proposé de mettre ensemble sur une après-midi des harceleurs, cyberharceleurs et des victimes, harcèlement, cyberharcèlement. Et en fait, chacun explique un petit peu. Voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà les répercussions, même 10 ans après. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on a enfin le point de vue du harceleur, cyberharceleur. Et pour les 3 personnes qui s'expriment ce jour-là, les 3 expriment qu'en fait, elles ne prenaient pas conscience que ça avait un tel impact. Elles avaient... Mais à aucun moment, au cours de leur scolarité, elles se sont dit « j'ai peut-être blessé quelqu'un ». C'était soit pour pas elle-même se faire bouffer, bah on suit le groupe, ce fameux témoin qui va suivre, les suiveurs, ou soit à un moment donné, bah, tout le monde fait ça, les adultes disent rien. Donc c'est... En fait, on questionne pas le sens moral associé à ça. Donc pour eux, c'est quelque chose de classique, de normal. D'autant plus quand il y a de l'isolement, un repli sur soi et un silence de la part de la victime. Et c'est ça qui est très difficile, je trouve, pour les jeunes harcelés, cyberharcelés, de comprendre en clinique, c'est de dire « mais pourquoi moi ?» Et des fois, quand on leur dit « mais c'est pas à cause de toi, c'était toi et lui-même sait pas pourquoi », ça prend du temps à le travailler, de dire « mais j'ai vécu tout ça et aujourd'hui, même 10 ans après, j'ai encore des répercussions », pour quelqu'un qui, lui, n'a jamais conceptualisé dans sa tête qu'il a pu un jour me faire du mal. Et c'est pour ça que la définition, c'est un grand débat. Au niveau de la communauté scientifique internationale, on n'est pas d'accord. Je prends le cas de Benoît Galland, avec qui je travaille là-dessus en Belgique. Il a été rapporteur de ma thèse. Et la première chose qu'il m'a dit en soutenance, il m'a dit « bon, tu sais ce que je vais te dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce que tu as raconté dans 300 pages, mais on est là pour discuter. » Éric Debarbieux, qui était le président du jury, disait « en fait, c'est super de vous entendre parler parce qu'on voit les divergences d'opinion, les divergences de résultats. » Mais à la fin, ce qu'on cherche à surtout savoir, au-delà du pourquoi, c'est rapidement le comment aider et de se dire bah, l'une des clés, c'est justement de travailler cette compétence qui est indispensable pour tout à chacun, enfant, ado, adulte, l'empathie. Comprendre, ressentir pour pouvoir éviter ou faire autrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, bien sûr, merci beaucoup. Dans le programme phare, je reviens un petit peu là-dessus aussi, donc effectivement, il y a une étape de définition. Je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent, hein, voilà, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Et il y a des compétences psychosociales aussi à développer chez les parents. Et alors là, ça devient éventuellement un peu plus compliqué, hein, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, une situation où en fait il n'y a pas de harcèlement avéré, hein, mais que la personne continue avec des parents qui n'accompagnent pas l'enfant à essayer justement de développer des capacités de compréhension de tout ce qui, voilà, quels sont réellement les moyens d'action, enfin, et la place du psychologue me semble essentielle, mais est-ce que c'est là, dans le programme phare, par exemple, est-ce qu'il y a des psychologues qui viennent dans les collèges? Parce que enfin, il y a tout un enjeu, et on en discutait avec certains collègues tout à l'heure. Les enseignants dans le secondaire, ils n'ont pas beaucoup d'heures de psychologie pendant leur formation. Voilà, donc. Si vous avez une réaction.
Alors, en fait, le problème, c'est qu'on a du mal à intervenir auprès des parents. Parce qu'eux, souvent, ne sont pas en demande. Les seules situations que je pourrais vous citer, c'est ceux pour qui, en fait, il y a à un moment donné l'école qui dit là, stop, il y a trop de problèmes de comportement, on est en train un petit peu de sonner la cloche, il y a peut-être une famille qui va porter plainte, faites quelque chose avec votre gamin. Et en fait, quand nous, on les reçoit en pédopsie, mais souvent, bah, ce n'est pas des profils de souffrance, donc on bascule vite en libéral, c'est un gros travail de faire prendre conscience aux parents que bah, leur enfant a une posture de hauteur de harcèlement, cyberharcèlement. Et souvent, alors j'ai trois situations en tête l'année dernière, les trois se sont finies en arrêt de suivi brutal, parce qu'en fait les parents me disaient, j'en ai marre de vous entendre me dire que c'est la faute de mon gamin. Donc de toute façon, si les parents ne sont pas contents de l'autre côté, ils portent plainte et on réglera ça avec la justice. Et en fait, c'est pour ça que je disais, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre quand on pose ce genre de questionnement, parce que nous, on ne va pas être en capacité d'aider la situation si les parents ne sont pas prêts à se remettre en question. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, dans le programme phare, c'est qu'on n'inclut pas encore suffisamment les parents et on ne les fait pas encore concrètement rentrer à l'école. Après, c'est beaucoup en lien aussi avec nos mentalités associées à ça. Vous voyez, je pense au Canada ou aux États-Unis, les parents font partie intégrante, même des CA, ils ont un pouvoir décisionnaire dans l'école, dans ce qui se passe, les matières, les activités périscolaires. En France, le parent rentre dans l'école quand il y a un problème et qu'il est convoqué. Je l'ai vu passer ça, je trouve ça vraiment sympa dans certains établissements. Ils font la journée de prévention en début novembre, le premier jeudi du mois, donc c'est la journée nationale de lutte contre les violences scolaires en France. Les parents sont invités à se déplacer. Mais bien souvent, ceux qu'on voit ce jour-là sont ceux qui font déjà ce qu'il faut au niveau des compétences psychosociales à la maison. Et souvent, c'est ça qui est assez dommage, c'est qu'aujourd'hui, la seule réponse que l'éducation nationale a, c'est la sanction. Pour l'élève qui harcèle, mais pour les parents également. Donc il n'y a pas vraiment encore, enfin moi à ma connaissance, après peut-être que au niveau de la maison des ados, ils ont peut-être d'autres réalités, mais au niveau des parents, en fait, moi j'aime bien limite parler d'éducation aux parents avant de commencer avec leurs jeunes. On a un déblocage des situations quand le parent s'implique, quand le parent est d'accord, quand le parent nous suit. Par contre, quand il n'est même pas d'accord sur le fait qu'on ait le droit de considérer que son enfant harcèle, cyberharcèle, c'est compliqué. Et des fois, c'est dommage parce que je pense à un jeune que je vais appeler Antoine qui, en fait, avait vraiment les capacités de pouvoir développer son sens critique, son sens moral, son sens de « Ok, j'ai envie d'apprendre à gérer ma colère, ma frustration autrement qu'en tapant, qu'en insultant, qu'en me posant sur mes réseaux et en me déchaînant le soir parce qu'il y a ça qui me saoule. » Mais en fait, comme les parents eux-mêmes ont cette façon malheureusement inadaptée, dysfonctionnelle de gérer leur propre frustration, colère, fatigue, bah en fait, moi, des fois, c'est ce que je dis en synthèse quand je me déplace dans les collèges, lycées, bah, quel poids on a, nous, en 30-45 minutes de consultation, à partir du moment où, en fait, ils sont chez nous. On essaie de leur prêcher la bonne parole, mais dès le moment où ils sortent, bah, c'est fini, en fait. Donc, on ne fait pas le poids quand la famille, les parents ne suivent pas, malheureusement.
Et comment on peut attendre du jeune qui vienne prendre conscience de ce qu'il a fait quand le parent vient lui dire « Non, tu n'as rien fait, mon enfant. » Et puis, je pensais aussi à ça. Je pense que des fois, il y a aussi une réflexion à avoir plus... alors, au niveau des professionnels, quand je dis ça, des fois, par exemple, quand on parle du harcèlement à l'école, on se rend compte que dans les équipes éducatives, il y a aussi souvent du harcèlement qui est vécu et subi de la part des enseignants et qui n'est pas du tout traité et qui passe aussi comme ça. Et c'est pas, enfin, les enfants, ils viennent aussi des fois reproduire des choses qu'ils voient et des choses qui ne sont pas prises en charge, etc., chez l'adulte. Et du coup, comment ça peut en tout cas se questionner et se travailler aussi à différents niveaux? Pas forcément directement sur la situation, mais ça peut avoir un effet, un impact aussi.
Ça. Et là, je pense aux familles qui, malheureusement, sont dans des spirales infernales de harcèlement. Entre elles, hein, enfin, le monsieur envers la madame envers le monsieur envers le monsieur, la dame envers la dame. Et en fait, on explique aux jeunes, bah, ça, c'est pas un bon comportement. Ah bon ? Bah, pourquoi papa le fait tous les jours auprès de maman ? Pourquoi maman, quand justement ça la saoule et elle est fatiguée, bah, elle nous traite comme ça, elle traite papa comme ça ? Bon, bah, on n'a pas trop de réponses à ce moment-là, et c'est là où je dis aux parents, bah, on n'a pas de boule de cristal ou de baguette magique, mais je vous rejoins là-dessus. Parfois, même au sein des équipes même, il y a une réelle banalisation aussi, parce qu'il y a des façons de faire et d'être déjà entre nous, entre adultes, qui questionnent, pour rester politiquement correct.
Oui, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que la violence et la haine en fait, à un moment donné, cherche un exutoire et ça passe d'un système à un autre, ça passe du système familial au système scolaire, puis parfois au système organisationnel. Les situations inachevées se rejouent là où elles peuvent se rejouer dans d'autres systèmes. Donc c'est important aussi d'avoir l'éclairage des systémiciens et de comprendre que voilà, si on laisse passer les abus, la haine à un moment donné, ben, ça va continuer son chemin. D'où l'importance du recadrage, des politiques d'établissement. Alors, tout à l'heure, on a parlé des parents, mais il y a le rôle du CPE, il y a le rôle du directeur d'établissement, de la directrice d'établissement, qui sont aussi très importants. Il y a des fonctionnements qui sont très, très différents d'un établissement à l'autre et d'une organisation à l'autre. Or, il y a une loi, et je pense que la loi est là. C'est aussi leur responsabilité en tant que chef d'établissement de veiller au bien-être de leurs salariés et ou des élèves. Donc voilà, la loi est là. Et puis voilà, quand au niveau des jeunes, même si les parents dévient, ben, effectivement les parents dévient, mais le recadrage est à faire dans l'établissement. Donc il y a des travaux très intéressants sur le recadrage de Humbeck, qui explique qu'on peut faire un recadrage souple en faisant prendre conscience des comportements qui sont déviants par rapport aux règles du savoir-vivre ou qui sont déviants par rapport à ce qui est attendu dans un établissement. Et donc ça, c'est à l'établissement de le poser. Bien sûr, après, il y a effectivement... quand on voit qu'il n'y a pas de répondant du point de vue des parents, une plainte à poser, alors souvent c'est d'abord une main courante, mais au moins il y a une trace quelque part. Donc en parallèle, moi je pense qu'il faut de toute façon toujours laisser une trace au niveau des fonctions régaliennes. On fait une main courante, si ça recommence, on porte plainte et la main courante peut se transformer en une double plainte. Donc, on laisse une trace. Et effectivement, c'est un levier. Si ça ne bouge pas, aussi bien au niveau de l'autre famille, des autres familles, que de l'établissement, c'est un levier que la famille peut utiliser ou que un CPE peut utiliser en disant effectivement, ben, vous savez, il y a quelque chose qui a été déposé. Donc, parfois, ça marche bien et le jeune qui est ciblé prend conscience et vient s'excuser. S'il ne le fait pas, à mon sens, c'est à l'établissement de convoquer et de travailler là-dessus et d'arriver à des excuses publiques. Parce que si on arrive aux excuses, voire publiques, on a fait un immense pas par rapport à ce circuit de la haine et de la violence. Donc à un moment donné, il faut mobiliser le système et puis éventuellement le juridique si ça ne bouge pas, quoi. Parce que quand on avoue être parent et se comporter, quand il y a le juridique, il y a le juridique, quoi. Donc ça c'est un garde-fou. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Une autre question. Y a-t-il eu beaucoup de changements liés à la crise sanitaire du Covid-19 par rapport au cyberharcèlement?
Alors, moi, je répondrai oui, que ce soit pour nos services de pédopsie ou nos pratiques en libéral. En fait, il y a eu un tel isolement des jeunes que la vulnérabilité, la fragilité a fait que bah, quand on s'ennuie à la maison et qu'on est enfermé et qu'on ne peut rien faire d'autre, on a tendance, en fait, à... Comment je peux dire ? Plus se laisser embarquer dans des groupes, dans des façons de faire et d'être qui sont de l'ordre du cyberharcèlement. En fait... Je parle d'ennui, mais ça pourrait paraître dérisoire, mais le fait de s'ennuyer et de ne rien avoir à faire en termes d'objectifs fait qu'en fait, ils se font complètement influencer à chaque fois. Ils s'abonnent à des comptes, ils likent sans regarder parce qu'ils scrollent beaucoup, presque de façon addictive. Et en fait, à un moment, ben, pour pouvoir avoir un petit peu plus de peps, de piment, faire un peu monter le pic d'adrénaline, comme certains pourraient dire mes patients... Ouais, en fait, on se décentre, on se rend compte que c'était pas correct, que c'était pas bien, parce qu'après, quand on retourne dans l'établissement et qu'on apprend que, ah bah tiens, quand on a passé 2 mois à cyberharceler, bah en attendant cet ami, avec des guillemets, En fait, rentrer et sortir en service de pédopsychiatrie, ça fait beaucoup plus réagir que quand on est concrètement connecté tout le temps et qu'en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit pas la personne derrière. Donc effectivement, nous, en tout cas, au niveau des demandes, en termes d'hospitalisation complète, en termes d'hospitalisation de jour, donc d'HDJ et de consultation libérale, ça a explosé depuis le début du Covid. Ouais. Et on n'est pas encore sorti de cette explosion de demandes de consultation. Je ne sais pas si vous avez conscience ou notion que le service public hospitalier va mal. C'est peu dire. Mais en pédopsychiatrie, typiquement aujourd'hui, s'il n'y a pas de risque suicidaire avéré, on ne prend plus. C'est une réalité. Moi, pour bosser dans ces services, je peux vous assurer que c'est un crève-cœur. Parfois, de recevoir des familles à 2h, 3h du mat, parce que moi, je travaille sur un format d'astreinte comme les médecins. Et en fait, leur dire, madame, c'est grave, mais on n'a pas de lit, on n'a pas de place. Il n'est pas au bord du suicide. Il ne va pas ouvrir la fenêtre de ce que moi, je retire de l'entretien. Donc, il faut attendre. Il faut attendre le rendez-vous CMP. Alors, sur l'île, à l'époque, on avait 18 mois d'attente. Là, j'entends que quand, c'est 7-8 mois. C'est long. Mais voyez, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire le parallèle avec d'autres régions, d'autres villes, pour se rendre compte. Et après, pour les parents qui ont la chance de pouvoir payer le suivi en libéral, là, les réseaux sont un peu plus accessibles, quoi. Mais on est encore dans cette explosion, même d'un point de vue libéral. Moi, toutes les semaines, là, vous voyez, tout à l'heure, j'étais avec mon portable. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 4 demandes sur ma boîte mail. Et en fait, ma boîte mail ne contient plus les messages vocaux. Ma boîte vocale ne contient plus de messages vocaux. Donc, les gens me disent, j'ai pas pu laisser de message vocal, donc je vous écris un mail qui m'expose la situation. Donc, j'ai lu 14, 15 ans, 17 ans. Et en fait, la seule question que je me pose, c'est comment je vais faire ? Parce qu'à un moment donné, une journée n'a que 24 heures. On essaie aussi d'avoir une vie à côté en tant que professionnel. Mais c'est frustrant. Et je pense que d'autres collègues psychologues autant impliqués pourront dire la même chose. C'est frustrant. Donc on fait au mieux, mais on n'est pas encore sorti, moi, je trouve. On est en post-Covid, mais on est encore en plein dedans au niveau des répercussions de tout ça sur ces phénomènes de violence, vraiment.
Je pense qu'il faut multiplier les informations sur les réseaux sociaux, mobiliser les parents d'élèves aussi pour multiplier les informations, qu'elle soit juridique, la loi, le rappel de la loi pour les jeunes, qu'elle soit sur les règles du savoir-vivre, parce qu'effectivement, c'est en essayant de stopper dès le départ qu'on va empêcher des dégradations. Et comme de toute façon, les établissements hospitaliers ne sont plus en capacité de faire les suivis, il y a un gros travail à faire sur le système, sur... aussi d'autres jeunes, et je parlais du courage moral, donc de dire que voilà, il faut dénoncer, il faut dire quand on s'allie, il faut dire quand on pense que la personne a été blessée, et plus de personnes réagiront autour d'une personne blessée, plus ça, voilà, moins ça fera de dégâts.
Merci beaucoup. Et du coup, pour conclure, il y a une dernière question que je vais lier. Solène nous demande sur le chat si on parle souvent de prise en charge des victimes d'harcèlement, mais quelle serait la prise en charge des agresseurs ? Et du coup, si possible, de lier ça avec une question un petit peu plus juridique. Est-ce qu'un psychologue peut avoir un rôle lors d'un procès pour un cyberharcelé ou un cyberharceleur dont on parle peut-être un peu moins ? Voilà.
Je pense qu'il y a plusieurs questions. En tout cas, le rôle du psychologue dans un procès, oui, évidemment, la question des attestations qui sont souvent demandées, en fait, souvent, c'est la seule preuve que les victimes peuvent avoir de ce qu'elles ont subi. Et donc, je pense que c'est très important de pouvoir les rédiger. Après, voilà, ça dépend de la place du psychologue, mais il y a aussi l'accompagnement au procès des fois qui se fait, ou en tout cas tout le travail, enfin souvent avoir un procès c'est très très long, donc il y a tout un travail de préparation, d'accompagnement, de débriefing aussi de ce qui peut se passer
que ce soit pendant les auditions avec la police, que ce soit avec le juge, avec enfin, la question de la confrontation aussi, qui n'est pas toujours évidente, c'est des choses qui se travaillent. Donc évidemment, le psychologue, il a une place là-dedans. Après, ça dépend aussi à quel niveau il se place, que ce soit avant, pendant, après, et puis quel rôle il a. Mais oui, il a une place. Sur la question de la prise en charge des agresseurs, alors, moi je ne serais pas du tout spécialisée là-dedans, mais je trouve qu'il y a des choses quand même qui ont été nommées sur la question de nommer l'empathie, travailler autour de ces questions-là, et puis surtout, je pense à un moment, le sentiment d'impunité, il est aussi fort parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de sanction, et c'est important que tout ça s'allie, qu'il y ait à la fois un travail psychique d'identification des émotions des autres, etc., mais aussi quelque chose qui vienne stopper ce qui est en train de mettre en œuvre. Mais si vous voulez compléter, merci.
Alors, au niveau de la prise en charge, je vais malheureusement devoir redire que, en fait, on peut les prendre en charge que quand ils viennent à nous. Qui est parfois compliqué, mais aujourd'hui, moi, je travaille plutôt cette question dans les académies, donc Paris, Lille et Caen maintenant, qui viennent me solliciter pour des interventions de groupe pour justement travailler sur cette prévention, mais de façon détournée, ciblée, accompagner les auteurs de harcèlement, cyberharcèlement. Et c'est là où, moi, je travaille l'empathie avec eux à travers le jeu de rôle. Je me base en fait sur des scénarios réels que des patients à moi suivis terminés clairement me donnent à travers leur réalité clinique. Et en fait, c'est un protocole encadré, hein, c'est pas une séance isolée comme ça. Et en fait, c'est une façon pour nous de travailler ces compétences psychosociales en groupe sans forcément pointer du doigt un élève. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le programme phare, je sais pas si vous l'avez entendu ou vous avez un petit peu compris, il y a rien spécifiquement qui est proposé pour le harceleur. Et je me rappelle que quand j'avais eu l'un des derniers G de la version, avant que ça soit clairement validé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, j'avais posé la question, et en fait, on m'a regardé ce jour-là, ils m'ont dit, c'est vrai. Et je me suis dit, mais en fait, on s'est servi de tous les travaux pour pouvoir aider les victimes, mais on oublie l'un des éléments principaux. Principal. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui en France, on n'a pas encore cette politique éducation nationale au niveau des établissements qui inclut la réelle prise en charge des harceleurs. Donc quand on a le jeune face à nous, les parents qui adhèrent et qui nous suivent, c'est jackpot. Vraiment, et c'est super quand les suivis se passent bien et qu'on voit les élèves les jeunes avancer. Et quelque chose que je retiens beaucoup, parce que quand on fait les protocoles dans les collèges, les lycées, dès la sixième, en fait, moi, je les vois, donc on intervient au mois d'octobre, je les revois 3 mois après, je les revois 6 mois après, et je reviens 1 an après. Et c'est génial quand on revient 1 an après et qu'on me croise dans le couloir et qu'on me dit « Ah, Madame Natacha, empathie, on en a encore parlé ce matin. » Et là, on se dit « Ben, on ne fait pas tout ça pour rien, et on y vient, on y tend. » Mais aujourd'hui, en France, on va plus travailler la question du harcèlement. Moi, je préfère parler de hauteur, de harcèlement, cyberharcèlement, plus sous un versant collectif. Et après, on considère que c'est la responsabilité personnelle des parents quand vraiment ça va un peu trop loin. Mais ce sont des réflexions en cours pour continuer à avancer sur le programme phare qui n'en est que à ses débuts. En fait, là, si vous voulez, on en est dans la phase test. On est vraiment dans cette phase où on met en application... On laisse 1 an, 2 ans, 3 ans sur le terrain et après on vient évaluer pour voir l'efficacité, les leviers qui ont fonctionné, les leviers d'action et les freins qu'il faut travailler. Mais on en est vraiment qu'au tout début de l'ébauche du premier programme de lutte contre le harcèlement scolaire en France. Contrairement à d'autres pays, grâce notamment à Dan Olweus, où ça fait 25 ans chez eux que de la maternelle à la terminale, le programme est obligatoire et inscrit dans les programmes de cours. Vous voyez, moi je trouve que c'est déjà bien d'avoir été en capacité d'avoir 10 heures d'accompagnement sur les compétences psychosociales de la prévention au Canada, donc à Toronto où j'ai eu la chance d'aller travailler avec eux récemment, c'est 100 heures par an. Donc quand je leur ai dit 10 heures en France, ils m'ont dit, mais il manque un zéro, non? Et je leur ai dit, non, presque avec une petite émotion de honte. Ils m'ont dit, mais vous êtes fous les Français, vous êtes fous, chez vous êtes fous. Et je dis, je ne me positionnerai pas. on y vient. Ça prend du temps, mais on y vient. Je suis réaliste, mais je suis surtout optimiste. Et il en faut pour cette problématique.
Alors, dans le monde du travail, en fait, c'est effectivement très important que la victime prouve. Donc, elle va s'appuyer sur les avis médicaux, les certificats. Plus elle a de certificats, bien sûr de témoignages, mais ça c'est plus compliqué, plus elle va étayer son dossier et plus elle risque du coup d'être reconnue. La problématique que certains médecins traitants rencontrent, c'est qu'ils sont attaqués. Quand ils font un certificat attestant que monsieur, madame, un tel a été victime d'agissement, ils peuvent très bien être attaqués en justice. Si, voilà, on sait que le harceleur est un supérieur hiérarchique, la personne en retour peut effectivement attaquer pour atteinte à l'honneur et à la réputation. Et bien sûr, les top managers qui sont un peu déviants ne s'en privent pas. Donc, un certain nombre de médecins ont déjà été inquiétés, les psychologues peuvent l'être aussi. Donc, il faut vraiment faire très attention. Là, je m'adresse aux masters qui sont dans la salle. On n'annonce jamais un diagnostic de harcèlement comme ça. On fait passer les outils de mesure du type LIPT de Lehmann ou NAQ, le Negative Act Questionnaire. On fait remplir le questionnaire la fois suivante. On y revient. On reprend les items. On fait parler la personne des réponses qu'elle a données. On lui demande de se rappeler les contextes de ce qui a été dit, écrit. Ça se fait en plusieurs séances. Et le psychologue, dans le temps du diagnostic, va recueillir un maximum de preuves, parce que le jour où il va rédiger ce document, il s'engage. Donc, moi, personnellement, je l'ai déjà fait, parce que, voilà, comme je suis spécialiste du harcèlement, il y a des salariés de tous bords, que ce soit chirurgien, qui font de la télévision, qui m'écrivent, qui me disent « est-ce que ça en est ?» aidez-moi. Donc, parfois, j'ai quelques entretiens et parfois, je fais une attestation parce qu'on regarde ce qui s'est passé. Voilà, il y a une prise de risque, ça, il faut le savoir. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire très attention, à avoir des outils qui permettent de faire un bon diagnostic, mais aussi de cumuler. Pour le médecin traitant, qu'il ne soit pas seul. Il faut aussi conseiller aux salariés ou aux parents qui accompagnent un jeune d'aller, quand il y a eu un élément marquant, vous allez aux urgences de l'hôpital psychiatrique pour que ce soit repéré par le psychiatre local et vous aurez peut-être aussi une attestation du psychiatre. Mais on a eu un cas à Toulouse, comme ça, où le médecin traitant a été attaqué, le service de psychiatrie qui s'y est mis, le psychiatre a aussi fait une attestation, j'ai fait une attestation, etc. Et donc, au final, la personne a eu un dossier. Mais il n'empêche que le médecin a été juridiquement très inquiété. Donc, c'est aussi valable pour les psychos. Je vous invite à regarder les cas de la CNCDP, la Commission nationale consultative des psychologues, où il y a des cas comme ça. Donc, en vous formant, en déonto, aller voir ce que peuvent vivre en retour. Donc, quand vous faites ce genre d'attestation, de témoignage, ayez vraiment les outils et les preuves. C'est un. Parce qu'en France, malheureusement, les professionnels ne sont pas encore assez protégés. Et en entreprise, il y a des managers qui vont attaquer. De toute façon, l'aspect financier ne leur fait pas du tout peur, au contraire. C'est souvent un pot de fer contre le pot de terre. Donc, il faut vraiment avoir des garde-fous et se serrer les coudes au niveau des équipes médico-sociales pour avancer.
Moi, je vais rebondir là-dessus, au-delà des questionnaires, des échelles à visée diagnostique, surtout être formé. Quand on sort du diplôme, forcément, on a tout ce syndrome de l'imposteur, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais prenez aussi ce temps de vous questionner, est-ce que là, je suis suffisamment formé pour pouvoir accompagner cette victime à pouvoir comprendre, parce que vous êtes susceptible d'être sollicité après. Moi, j'ai pas mal de collègues pédopsychiatres en libéral maintenant qui font plus d'écrits. Pour reprendre un petit peu ce que Madame Desrumaux disait, où en fait, moi, je les ai au téléphone, ils me disaient, écoute, si tu veux écrire, t'écris. Moi, j'écrirai pas, je signerai pas. Parce qu'en fait, ça s'est tellement retourné contre eux qu'à un moment, ils en ont marre, en fait. Donc, pour pouvoir se protéger, parce que parfois, même l'ordre des médecins se retourne contre eux. On a eu une situation à Paris, il n'y a pas longtemps. Une pédopsie qui avait justement dénoncé une situation de cyberharcèlement très grave qui en était arrivée, en fait, au bord du suicide de la jeune. Le problème, c'est que la famille en face était une famille très influente. Famille de médecins qui avait fait que, bon, l'ordre des médecins se sont plutôt positionnés pour le confrère que pour la famille de victime. Et elle a été, du coup, suspendue au niveau de son activité. Donc, elle était rattachée à un hôpital et elle faisait du libéral. Donc, elle n'a même pas 35 ans, quoi. Et elle me disait, écoute, moi, ça fait 3-4 ans que là que j'exerce, je ne fais plus d'écrit, c'est fini, je ne signe plus. Donc, c'est à ça aussi dont il faut penser. Vous voyez, même des fois, des médecins qui sont formés, qui ont la bouteille depuis 10 ans, ils sont précautionneux. Donc, soyons-le aussi en tant que psychologue pour nous, et ça aura directement un impact après sur la prise en charge. D'où l'intérêt aussi de se former un réseau pour pouvoir passer le relais en cas de besoin quand certaines situations nous dépassent. Pas parce qu'on est nul, mais parce que chacun ses limites. Moi, j'aime bien dire, je connais bien mes compétences, mais je connais surtout mes limites. Et il faut savoir les identifier très tôt, ou après, jouer le jeu de continuer à se former. De toute façon, c'est une obligation, formation continue dans notre code de déontologie. Mais il faut savoir se protéger pour justement continuer à pouvoir aider les jeunes au quotidien.
Cas, c'est burn-out, alors qu'il s'agit d'un harcèlement. Donc ça rend encore plus complexe les diagnostics. Mais voilà, il continue à écrire, mais il remplace le mot harcèlement par burn-out. Donc voilà. C'est quand même important de faire un écrit, donc voilà. Parce que sinon, la personne reste démunie. Et c'est un parcours du combattant de récolter des certificats, des preuves, etc. Alors il y a les plateformes signalement, il y a aussi au niveau du ministère de l'Intérieur, donc il faut saisir le ministère de l'Intérieur. Il y a des personnes spécialisées au niveau des fonctions régaliennes qui ont le droit d'aller, voilà, qui ont toutes les techniques pour aller sur les plateformes, récupérer les infos, etc. Donc il faut pouvoir prouver aussi en complément de la médecine et de la psychologie.
Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour toutes vos interventions. Donc, nous voilà arrivés à la fin de ce cyberharcèlement. De ce séminaire interdisciplinaire sur le cyberharcèlement qui a réuni toutes ou presque les spécialités de la psychologie sur une thématique qui est très actuelle. Donc, tout au long du séminaire, on a pu découvrir, grâce aux intervenants et intervenantes, les définitions du cyberharcèlement, sa prévalence à l'école, au collège, au travail. On est allé des dynamiques d'influence familiale à la prise en charge des harcelés ou des harceleuses sur les questions qu'on a eues, en passant par la prévention de ce dernier et à la découverte d'une vignette clinique. On a pu aller plus loin sur ce thème qui, nous l'espérons, a pu vous captiver. On tenait à remercier chaleureusement les intervenants et les intervenantes pour toutes leurs interventions, qui ont accepté bénévolement d'intervenir sur ce thème. On remercie également le comité d'organisation 100% étudiants qui a organisé cet événement, et également Madame Karine Le Breton pour son soutien et son aide à l'organisation. Et on vous remercie également d'être venu en présentiel comme en distanciel pour assister à ce séminaire. J'ai failli refaire l'erreur. Et donc, merci à toutes et à tous.
Je terminerai juste par vous remercier de votre présence, qu'elle soit en présentiel ou en ligne. Elle compte pour les jeunes. Et pour la petite anecdote, l'ensemble des patients que j'accompagne m'ont dit « Tu nous diras combien ils étaient pour voir combien de personnes sont intéressées. » Donc je leur dirai qu'on était 1 million.